Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Grâce à Mzati à la présentation. À l'ouverture de ce journal, nous parlons de la situation sécuritaire au Nord Kivu, avec cette panique qui s'empare de la population de Goma depuis ce matin à la suite de l'avancée des rebelles du M23. Il s'observe de nombreux mouvements de population fuyant les combats, notamment en provenance de la cité de Saki. Une dizaine de présumés bandits, dont ceux qui sont accusés d'avoir tué le journaliste Patrick Adonis Numbi dans la nuit du 7 janvier dernier à Lubumbashi, présentés ce jeudi à la presse par le gouverneur de la province Haut-Katanga. Une nouvelle occasion pour l'autorité provinciale Jacques Kiabula d'inviter la population à dénoncer les malfrats et à collaborer avec les services de sécurité. Plus de 200 000 nouveaux déplacés sont enregistrés dans les territoires de Lubero et Beni, au Nord Kivu. Invité des Radio Kapi, le coordonnateur humanitaire en RDC Bruno Lemarquis, qui alerte sur cette situation, appelle notamment le gouvernement congolais à mettre les moyens adéquats pour répondre à cette urgence humanitaire. Vous l'entendrez avant la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la situation reste incertaine. C'est jeudi dans la ville de Goma. Une panique s'est emparée de la population depuis tôt le matin. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore communiqué sur la situation à Saki. Cependant, plusieurs sources, notamment la population en fuite, affirment que la cité de Saki serait infiltrée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On aperçoit de nombreux mouvements de population se déplaçant vers Goma. Par ailleurs, des blessés sont également transportés sur des motos et autres moyens vers les hôpitaux. Justement, face à cette intensification des combats ce jeudi dans les environs de Saké, des familles entières prennent, bien entendu, la direction de Goma. Des déplacés qui viennent s'ajouter à ceux qui ont fui les combats hier dans la zone d'Enzulo. Ces arrivées créent également la panique parmi les habitants des sites autour de Goma. Une situation que nous décrit Léopold Bouissa de la société civile des Kamuronza dans le territoire de Masisi dans cet extrait sélectionné par Chris Mukand.
Il y a des populations qui sont éparpillées sur la route. Saké Goma ne sachant pas dans quel sens se diriger. C'est vraiment un spectacle désolant et nous demandons au gouvernement de prendre vite des initiatives pour récupérer les zones déjà conquises, mais aussi il faudrait que des équipes soient dirigées sur le terrain pour encadrer tous ces déplacés qui ne savent pas où aller, mais aussi au niveau de Kinshasa, il faudrait qu'on dépêche le chef d'état-major général qu'il puisse venir palper des doigts la situation que nous sommes en train de traverser, parce que il y a une école qui pense que peut-être que la communication sur cette guerre est différente, et donc il y a une compréhension au niveau ici de l'Est et une autre compréhension au niveau de Kinshasa, parce qu'on ne comprend pas vraiment comment les gens peuvent continuer à souffrir jusqu'à ce niveau et que des mesures ou des décisions sérieuses ne soient prises pour mettre fin à cette situation. C'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant.
Vous avez compris que c'est une marée humaine des déplacés qui continuent d'inonder les rues de Goma. Dans sa partie ouest, la ville s'est transformée en grand camp de personnes déplacées, alerte les acteurs sociaux. Ces personnes déplacées arrivent en masse fuyant les nouveaux combats dans leur village. Tout comme certains sites des déplacés de Mugunga se vident progressivement depuis ce matin. Leur arrivée crée une psychose généralisée à Goma. Denis Lukeso.
Cet afflux est observé dans les quartiers Lac Vert, Mugunga et Ndosho. Ces nouveaux déplacés proviennent d'Enzulo, Saké, Mubambiro et d'autres localités du territoire de Kalehe au sud Kivu. Ils s'ajoutent à de nombreux autres qui sont dans des sites déjà aussi saturés. Les présidents des camps de Boulengo affirment que certaines de ces personnes ont passé la nuit à la Belle Étoile faute d'abris disponibles dans des camps. Alors que les sites d'Enzulo s'est vidé totalement de tous ces déplacés depuis le début de cette semaine, les occupants d'autres sites tels que Lushagala, Boulengo, 8e CEPAC, dans les quartiers Mugunga, quittent préventivement leur site pour se mettre à l'abri. Ils arrivent à Goma dans des familles d'accueil. Plusieurs acteurs déplorent qu'aucune disposition ne soit prise par les autorités provinciales pour accueillir ces compatriotes qui sont en détresse. Ils appellent les autorités à activer en toute urgence les plans de contingence humanitaire pour venir en aide tous ces déplacés.
Le problème aujourd'hui, il faut maintenant imaginer comment accueillir ces gens, comment les orienter. Il n'y a pas ces plans-là de contingence humanitaire. Ce pays n'est pas passé aux élections en 2023 pour assister au désastre qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, si tous ces gens-là sont abandonnés, alors pour quelles raisons aujourd'hui on va encore dire qu'on a des autorités qui sont là pour travailler pour l'intérêt du peuple?
La société civile urbaine de Goma, elle, appelle la population à la solidarité tout en restant vigilante. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Face à cette dégradation de la situation sécuritaire, la force de la MONUSCO a lancé son opération Springbok 3. Mise en place depuis novembre 2023, l'objectif de ces dispositifs est de protéger Goma et Sake. À l'heure qu'il est, les casquets bleus et leurs partenaires mènent ensemble sur le terrain des patrouilles conjointes pour protéger les populations civiles. Et au sud qui est voisin, Calais Centre, chef-lieu du territoire du même nom, est débordé par le nombre de déplacés qui viennent en masse de la partie nord depuis l'occupation de certaines agglomérations par les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Aux 600 000 déplacés internes qui fuyaient Massissi vers Calais auparavant, s'y ajoutent plusieurs autres fuyant les zones sous contrôle des rebelles au sud Kivu. La plupart s'y dirigent à Calais Centre et d'autres encore vont en ordre dispersé dans différentes directions. Jean Kassami nous décrit les conditions d'accueil de ces déplacés.
Calais Centre est suffoqué par le surnombre de déplacés internes qui ne cessent d'accroître au jour le jour. Leurs conditions de vie laissent à désirer, renseigne le président de la société civile, Dimilier Kassole Ngonyozi.
Il y a beaucoup de déplacés dans presque tous les villages de Calais littoral qui sont venus de Minova, de Nyabibwe, de Kalungu, de Buchiro et consorts.
L'administrateur assistant du territoire de Calais confirme les débordements de l'autorité locale. Archimède Karebwa sollicite l'appui des humanitaires.
La situation elle est chaotique parce qu'il n'y a pas accès humanitaire. Nous sommes en train de connaître, n'est-ce pas, un afflux de déplacés fuyant les combats dans les hauts plateaux et qui prennent la direction de la route nationale numéro 2, c'est-à-dire côté Nyabibwe, Calais Centre. Nous sommes en train d'appeler les gouvernements et les intervenants humanitaires de faire en toute urgence, c'est-à-dire l'assistance en vivre et non vivre, l'assistance médicale et l'assistance psychosociale.
Le mouvement se poursuit suite à l'incertitude qui plane sur l'axe Calais et Centre Minova. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Nous l'avons dit dans les titres, une lueur d'espoir se pointe à l'horizon pour connaître les circonstances de la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi. Ce dernier a été tué à Lubumbashi à coups de machette il y a plus de 2 semaines par des inconnus. La police a présenté ce jeudi à la presse les présumés bandits qui seraient impliqués dans ce drame. L'événement s'est déroulé au gouvernorat des provinces en présence de nombreux journalistes de Lubumbashi. Le gouverneur Jacques Kiabula a une fois de plus demandé à la population de collaborer avec la police pour dénoncer les malfrats qui sèment la terreur dans la ville. À Lubumbashi, une correspondance de Jean Gando.
Ces présumés bandits sont répartis en 2 groupes. Le premier est constitué de 7 jeunes et 3 femmes. C'est parmi eux qu'on retrouve ceux qui sont accusés d'avoir tué le journaliste Patrick Adonis Numbi dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier. D'après la police, ces gens ont été dénoncés par un homme arrêté et conduit à la prison de la Kasapa pour s'être introduit dans une résidence où il a volé de l'argent et le téléphone du propriétaire de la maison qu'il a par la suite blessé à l'aide d'une machette. Les faits se sont passés un jour après la mort de Patrick Adonis Numbi et c'est en retraçant ce téléphone qu'il a été capturé. Interrogé, il a cité les membres de sa bande. La police les a retrouvés dans un hôtel de la commune de Katouba. Ils ont reconnu avoir participé à la mort de Patrick Adonis Numbi. Leur chef de file et certains de leurs amis sont en cavale. Parmi les 3 femmes présentées, il y a la compagne du leader de la bande. Les 2 autres sont accusés de fournir les machettes aux criminels et de les accueillir dans leur maison avant qu'ils n'aillent opérer. Satisfait de ce joli coup de filet, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a rassuré les journalistes.
Nous voudrions surtout pour honorer la mémoire d'Adonis, que ces criminels soient jugés en flagrance et que l'audience soit médiatisée.
Le 2e groupe est constitué d'un militaire et d'une femme qui ont été retrouvés aussi dans le même hôtel avec de biens volés la nuit dernière. Lubumbashi, Jean Gando, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, des tirs nourris ont été entendus la nuit dernière au quartier Molende et Bikinda, dans la commune de Selimbao, à la frontière avec celle de Ngaliema. Des échanges de tirs ont eu lieu entre la police et des bandits armés. Ces derniers ont attaqué au moins 4 parcelles, dont une boulangerie. Une femme a été violée, de l'argent et des objets de valeur emportés. Autre précision avec Mathias Womumu, bourgmestre de Selimbao, rejoint par Babel Mpongo et Nancy Tambo.
Il y a eu incursion de personnes armées non entièrement identifiées dans les quartiers Molende sur l'avenue Louvemba et l'avenue Kingusi. Pas de blessés, pas de pertes à vie humaine, mais ils ont violé une dame, ils ont emporté l'argent et beaucoup d'objets de valeur. Et dans les quartiers Bikinda sur l'avenue Boma, ils étaient nombreux, ils sont enterrés dans une boulangerie. Il y a eu échange de tirs, ils ont pris fuite. Sur l'avenue Boma, c'est pour la 2e fois cette boulangerie, au mois de décembre, ils ont opéré. On a renforcé la police dans les deux quartiers. À question des enseignants, on a violé la vigilance de la police pour aller opérer. À partir de 14h, on a une réunion de conseil de sécurité pour renforcer nos stratégies sur le terrain pour que la population soit un peu calme. Nous demandons seulement à la population de collaborer avec nos services. Quand vous voyez une personne suspecte, prière d'informer les services pour que nous identifions la personne là, pour que nous mettons fin aux actes barbares comme ça.
Mathias Womumu, bourgmestre de la commune de Selimbao. Notez que des cas pareils sont aussi signalés ces derniers jours au quartier Mbandaka, dans la commune de Bumbu, entre les avenues Landou et Révolution, direction Matapol. Le dernier cas a eu lieu le mardi. Parlons également du banditisme urbain à Kalemie, dans la province du Tanganyika. Une série de cambriolages enregistrés depuis le début de cette semaine dans plusieurs quartiers de la ville. Des sources rapportent que parmi les victimes de ces attaques, il y a un ancien ministre provincial qui a été blessé à l'armée blanche. Le mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou lance un appel au gouvernement du Tanganyika de renforcer la sécurité de la population. Le point avec Paul Emunanga.
Des sources concordantes renseignent que dans la nuit de mercredi à ce jeudi, des malfrats munis d'armes à feu ont attaqué le domicile du chef coutumier Tchenge au quartier Kankomba, dans la commune du Lac. Des coups de feu ont été entendus, rapportent les mêmes sources. Les bandits ont emporté de l'argent et plusieurs biens de valeur dans la maison du chef coutumier. Des témoins indiquent que des malfrats ont emporté une importante somme d'argent chez un changeur de monnaie. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier au quartier Joseph, dans la commune de la Loukou, la maison de l'ancien ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Tanganyika a été la cible des hommes non autrement identifiés. Ils l'ont blessé à l'arme blanche avant d'emporter de l'argent et plusieurs biens de valeur. Pour le président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou, le gouvernement du Tanganyika devrait renforcer la sécurité de la population. Nathan Mugisho.
Nous appelons le gouvernement provincial, par à travers le ministère de l'Intérieur, de fournir tous les moyens possibles, de mettre en place toutes les stratégies nécessaires afin de nous donner la sécurité dans la ville de Kalemie.
Rappelons que les services de sécurité présentent régulièrement aux autorités provinciales des présumés bandits qui sont appréhendés dans la ville de Kalemie. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Un nouveau partenariat entre Kinshasa et Washington est lancé en ce mois de janvier pour encadrer l'extraction artisanale légale et responsable du cobalt et cuivre provenant de la RDC. À travers l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, le gouvernement américain appuie un projet pilote à exécuter dans la province du Lualaba. L'objectif, renseigne un communiqué de presse de l'ambassade des USA, c'est pour que l'exploitation artisanale du cuivre et cobalt devienne une véritable profession dont les produits issus de ces travaux répondent aux normes du marché international. D'autres détails avec Billy Ivan Lutumba.
Le projet professionnaliser la chaîne d'approvisionnement en cuivre cobalt artisanal en RDC est mis en œuvre en collaboration avec la filiale de la GECAMINE EGC, entreprise générale du cobalt créée en 2019 avec comme finalité d'encadrer l'achat et la commercialisation du cobalt artisanal en RDC. Ce projet financé à hauteur de 2 millions de dollars permettra à l'entreprise générale du cobalt d'améliorer ses opérations sur terrain et mettre en œuvre des normes pour garantir une exploitation responsable du cuivre et cobalt artisanal de la RDC selon le standard international, en ce y compris les principes volontaires en matière de sécurité et des droits humains. L'exploitation artisanale ainsi professionnalisée va dans la foulée, selon l'esprit de ce projet, offrir des garanties pour des pratiques minières responsables, le respect des normes en matière de travail et d'environnement. La traçabilité de la chaîne d'approvisionnement sera également assurée, sous-entend le projet. Une fois le nouveau modèle de professionnalisation est mis en place, souligne le communiqué, l'industrie artisanale congolaise du cuivre cobalt fera son entrée légalement sur les marchés mondiaux. Le profit reviendra ainsi aux travailleurs, aux communautés et à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, mais également tout le peuple.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba. Revenons un instant au Nord Kivu, mais cette fois-ci dans la ville de Beni, où le forgeage fait partie de ces métiers devenus rares, mais qui servent de gagne-pain à plusieurs chefs de famille. Guylaine Kassassia signe ce reportage.
Ils sont nombreux, des adultes et des jeunes, qui passent des journées en train de battre les fers à Mabondeni, le plus grand site de forge de la ville de Beni. Daniel Asombe Kiakondou, l'un des responsables de ce site, est âgé de 66 ans. Ses pères de famille dit avoir commencé ce métier à l'âge de 16 ans à Kisangani. 50 ans plus tard, Daniel Kondou ne regrette pas ce choix. Il lance même un appel aux jeunes à suivre ses traces.
Depuis 1975, j'étais à côté de Suva et mon oncle, celui qui était le technicien. haïtien. Et puis j'ai appris beaucoup à côté de lui. Il y en a beaucoup de souvenirs que j'en ai. Et puis nous, on a besoin qu'on envoie les enfants vers nous pour les former. Tout le monde ici, 80%, ils sont mariés.
Patrick Atembo exerce lui ce métier depuis 2005. Il dit avoir abandonné les études en première année de cycle d'orientation CO, l'équivalent de la 7e année du secondaire aujourd'hui. Pour lui, la forge, c'est toute sa vie.
Depuis 2005, ce métier m'a beaucoup aidé à répondre à tous mes besoins malgré la guerre dans la région ici. J'ai commencé ce métier tout jeune. Aujourd'hui, je suis marié et père de 6 enfants. Toute ma vie dépend de ce métier. Les jeunes doivent savoir que les métiers artisanaux restent les plus rentables actuellement.
Beni Yurinka Sassia, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon. Le gouvernement a fixé au 12 avril prochain la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, étape clé vers la fin de la transition prévue en août prochain. Le scrutin aura donc lieu dans moins de 3 mois. Le pays s'apprête donc à tenir cette importante échéance qui permettra d'élire le futur président de la République qui dirigera le pays durant les 7 prochaines années avec la possibilité de renouveler son mandat une seule fois selon la nouvelle constitution.
L'invité.
La situation humanitaire demeure préoccupante dans l'ensemble de la province du Nord Kivu, où plus de 200 000 nouveaux déplacés sont signalés dans les territoires des Lubero et Beni. C'est ce qu'affirme à Radio Kapi le coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC. Bruno Lemarquis pense qu'il y a urgence que le gouvernement mette les moyens nécessaires et que les efforts militaires soient fournis pour stabiliser les zones sous menace. Cela pour permettre aux humanitaires d'atteindre les zones affectées par les déplacements des populations. Bruno Lemarquis s'entretient avec Marc et Marofimo.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu pour vous imprégner de la situation humanitaire dans la région. Quel est votre constat?
Bon, la situation humanitaire reste difficile. On a eu beaucoup de rencontres ici. C'était une visite assez courte. On a eu une rencontre avec les partenaires humanitaires qui nous ont fait le point sur la situation. Nous aurions dû aller à Lubero, mais hélas, on n'a pas pu s'y rendre à cause des problèmes de brouillage du GPS, qui pose pas mal de problèmes pour les acteurs humanitaires. Et d'ailleurs, pour tous les vols sont affectés, les vols commerciaux, etc., et les vols humanitaires. Mais on a eu un bon état des lieux par les partenaires humanitaires. Il y a eu beaucoup de nouveaux déplacements récemment, notamment dans la zone de Lubero depuis le mois de juin. Donc c'est une combinaison du conflit avec le M23, mais aussi dans certaines zones, l'activisme des ADF. Autour de Lubero, on estime qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui sont nouvellement déplacées. La plupart vivent dans des familles d'accueil. 80% vivent dans des familles d'accueil. Encore une fois, ça démontre l'exceptionnelle solidarité des communautés par rapport aux déplacés. Les 20% qui ne sont pas dans les familles d'accueil vivent dans des sites collectifs. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer ces sites, pour que les déplacés ne restent pas dans des infrastructures collectives comme des écoles, etc. Non. Les humanitaires, bien sûr, ont besoin de plus de moyens, comme toujours, vu l'étendue des besoins dans cette zone du Nord Kivu, mais également d'autres endroits du Nord Kivu et l'Ituri et le Sud Kivu. On suit tous la situation du Sud Kivu actuellement avec encore une fois un afflux de nouveaux déplacés. Donc tout ça, ça prend beaucoup de ressources, de présence des partenaires humanitaires, etc. Donc voilà, il faut continuer, il faut espérer que les solutions politiques au conflit fassent des progrès, puisque c'est la seule manière de faire en sorte que les déplacés, les personnes ne soient pas obligées de se déplacer et que les déplacés ensuite puissent rentrer chez eux.
Vous avez échangé avec des organisations humanitaires actives dans la zone. Or, on connaît les contraintes sécuritaires qui ne facilitent pas leur travail. Pouvez-vous nous dire justement dans quelles conditions travaillent chaque jour ces acteurs humanitaires pour apporter de l'aide aux personnes vulnérables qui en ont grandement besoin?
Bon, ils ont beaucoup de contraintes. Alors, les humanitaires ont quand même, d'une manière générale, à part quelques exceptions, mais d'une manière générale, accès aux personnes dans le besoin. Oui, puisque les humanitaires, on travaille, il faut qu'on ait accès aux personnes dans le besoin, qui qu'elles soient, où qu'elles soient, selon les principes humanitaires. Néanmoins, quand il y a des combats actifs, c'est très difficile pour les acteurs humanitaires d'être là, au milieu des combats. Donc là, c'est des problèmes d'accès physique. Ensuite, du fait notamment de l'activisme des ADF, il y a certaines zones qui parfois sont difficiles d'accès par les routes. Voilà. Donc, et puis l'autre contrainte, bien sûr, c'est les ressources, puisque bon, on n'a jamais assez de ressources vu l'étendue des besoins. Parce que partout où je vais, moi, les humanitaires disent bon, on n'a pas assez de moyens pour tous les besoins et la qualité de la réponse n'est pas suffisante. Mais pour information, les financements humanitaires qui ont été mobilisés en 2024 par les partenaires, donc les États membres, les donateurs, notamment les États-Unis d'Amérique, ont été les plus hauts jamais mobilisés en RDC, les plus hauts jamais mobilisés au cours de toutes les dernières années. Jamais il y a eu autant d'argent pour la réponse humanitaire, avec 1,3 milliards milliards de dollars qui ont été mobilisés. Ça ne couvre que la moitié des besoins, mais néanmoins on doit reconnaître que des efforts considérables ont été faits par la communauté internationale pour financer cette réponse humanitaire. Pour 2025, on sait que la situation va être difficile pour les financements humanitaires pour 2025, mais on va toujours continuer à faire le plaidoyer et on remercie les bailleurs de fonds pour la réponse humanitaire.
Et face à cette situation, que recommandez-vous au gouvernement ?
Bon, une demande récurrente des acteurs humanitaires, notamment par rapport à la situation, à l'activisme des ADF, la recrudescence de la présence d'ADF dans des zones où ils n'avaient pas été actifs depuis un moment, ou même de nouvelles zones, c'est la présence sécuritaire de l'État. Donc, du fait du conflit avec le M23, que ce soit dans les zones, si on peut les appeler comme ça, les zones ADF, ou cet après-midi nous allons en Ituri, mais je pense que ça va être le même plaidoyer en Ituri, c'est le fait qu'il y a des mouvements de troupes, des troupes qui doivent être bougées vers les lignes de front, vers les lignes de défense dues au conflit avec le M23, ce qui crée certains vides sécuritaires dont profitent des groupes armés, notamment les ADF. Donc il y a une corrélation entre ces mouvements de troupes et le nombre de victimes civiles qui sont faites par les ADF. Donc le plaidoyer, c'est vraiment que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent également à déployer des moyens sécuritaires dans ces zones-là où les populations civiles souffrent vraiment.
Bruno Le Marquis, merci.
Merci beaucoup et merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Polydor Basunga a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Massange était à la présentation. Merci pour votre attention.